Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Et vous êtes entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de vous, Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio avec cette affaire et cette question qui a informé Nicolas Sarkozy qu'il était sur écoute. Le PNF, le parquet national financier, a essayé de répondre à cette question pendant près de 6 ans. Mais pour ce faire, eh bien, il a procédé à des investigations en catimini, hein, clairement, sur des ténors du barreau de Paris. Révélation du Point aujourd'hui, l'hebdomadaire, et colère rouge, c'est peu dire, colère rouge des avocats, dont par exemple Éric Dupond-Moretti, qui évoque un fonctionnement monstrueux. Charles Villeneuve, cette affaire, cette nouvelle affaire dans laquelle le PNF est cité après Éliane Houlette, déjà la semaine dernière, ça commence à faire.
Ça démontre, enfin, moi je trouve que, si vous voulez, la pratique des parquets spécialisés finit par être apparentée à des juridictions d'exception. C'est vrai aussi pour le terrorisme, c'est vrai pour bientôt, à mon avis, il y aura un parquet sur l'environnement, un parquet santé, un parquet... Et ça vit, si vous voulez, sur le plan des magistrats, qu'ils soient du parquet ou qu'ils soient de juges d'instruction, comme des enclaves, complètement, avec des pouvoirs sinon exorbitants, en tout cas une utilisation de ces pouvoirs, de manière là, en l'espèce, si vous voulez, que des avocats espionnés, écoutés, enregistrés, que leurs factures de leur téléphone soient détaillées sans que ne s'exerce les droits de la défense, n'est pas exagéré de dire qu'il s'agit d'un abus de pouvoir. C'est indéniable. Alors maintenant,
c'est légal.
Le président de la République, dans l'affaire, notamment Fillon, a saisi le Conseil supérieur de la magistrature. On sait ce que ça a donné, notamment dans l'affaire d'Outreau. Moi, je ne crois pas du tout, si vous voulez, car je crois qu'il y a un très fort corporatisme des juges. Mais... On l'a vu dans plusieurs matières. Et là aussi, je trouve que ça illustre parfaitement, si vous voulez, ce que le fameux Montesquieu, ouais, dans son Esprit des lois, a dit. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Mais... Et là, c'est l'illustration.
Alors, abuser, dit Charles, mais c'est légal, Michel Cotta?
Ah, rien, enfin, pas grand-chose qui a été fait là-dedans pourrait être jugé comme légal, notamment toutes les enquêtes sur la responsabilité des uns et des autres. Bon, c'est absolument illégal de faire entendre des gens comme ça, c'est absolument illégal de faire entendre...
Il n'y a pas eu d'écoute.
Les fadettes, ça veut dire, il n'y a pas eu d'écoute, mais ça veut dire que si moi j'ai téléphoné à Jean Veil, ce qui, figurez-vous, m'arrive de temps en temps, oui, eh bien je figure. Bon, oui. C'est quand même.
Oui. Et ça, c'est illégal. La Cour européenne des droits de l'homme le condamne formellement.
Non, le secret professionnel, parce qu'ils enquêtent sur le secret professionnel. Alors ça, pour le coup, quand on relit ce qui fonde cette institution, ce parquet financier, il n'y a nulle part, ce droit-là. Donc, moi, je suis moins catégorique que Charles, c'est-à-dire que je pense quand même qu'il faut des magistrats qui sachent ce que c'est
mais
que
les affaires. Mais il y en a plein, des magistrats.
Bon, voilà. D'accord, mais il faut une information.
Il y en a plein, très, très bien spécialisés.
Il faut une spécialisation, si vous voulez.
Oui,
mais je pense qu'il ne faut pas de parquet national financier, d'autant qu'il outrepasse les droits pour lesquels il a été créé.
Mais voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Michel. Il faut
courir derrière les hommes politiques. Il est créé d'abord pour tous les délits financiers.
Il faut des parquetiers, il faut des services de police parfaitement spécialisés, c'est vrai, parce que quand on s'attache...
Ça, il y en a déjà.
Quand on s'attaque à la délinquance financière, c'est un travail assez difficile pour établir les faits, notamment, parce qu'il y a de multiples manières, de toute façon, de les cacher. Mais il n'empêche que, petit à petit, ces enclaves, je les ai fréquentées en tant que journaliste pendant près de 15 ans, et c'est vrai que, de temps en temps, ils s'affranchissent d'un certain nombre de règles.
Catherine ?
Non, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'alors qu'il y avait une information... judiciaire ouverte avec des juges qui enquêtaient pour savoir si oui ou non Nicolas Sarkozy et son avocat avaient essayé de corrompre un magistrat de la Cour de cassation qui s'appelle Azibert, qui est un copain de régiment de Thierry Herzog.
Voyez, ancien avocat général auprès de la Cour de cassation, par ailleurs.
Donc, il y avait déjà... Alors, pourquoi est-ce qu'alors qu'une... Déjà, il y a une information judiciaire... Le parquet national financier, c'est Madame Ariane Hampson qui, sur ces faits-là, lance une enquête préliminaire. C'est-à-dire que des policiers vont enquêter pour savoir qui a bien pu avertir Herzog que les tocs avec lesquels il, c'est-à-dire les téléphones, les tocs avec lesquels il conversait avec Nicolas Sarkozy étaient écoutés. Bon, donc on pense que ce sont des avocats. Et pourquoi des avocats d'ailleurs? Pourquoi des avocats?
Pourquoi pas des policiers?
Pourquoi, hein? Alors, pourquoi pas, qui pouvait avoir averti? Pourquoi des avocats?
Des journalistes ou des journalistes. Alors,
qui... on va y revenir, hein, parce que l'affaire est compliquée. On va refaire aussi la genèse dans un petit instant avec vous, les grandes voix. On se retrouve dans une petite seconde sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy et les grandes voix Catherine et Michel Cotta et Charles Villeneuve.
Voilà, on revient sur cette affaire, le parquet national financier qui a mené des investigations en catimini sur des ténors du barreau en référence à l'affaire Nicolas Sarkozy, l'affaire Bismuth. On va rappeler quand même les faits. Ça remonte à 2014 quand la justice enquêtait sur les sources judiciaires de l'ex-président et de son avocat Thierry Herzog. Ce dernier aurait à l'époque obtenu des informations confidentielles sur l'affaire Bettencourt auprès de Gilbert Azibert, ancien avocat général, après la Cour de cassation. Pour revenir juste sur cet aspect-là, et Nicolas Sarkozy qui a réagi aujourd'hui via un message Twitter, il demande à ce que toute la vérité soit rétablie sur les circonstances qui ont permis cette invraisemblable accumulation de manquements et de dysfonctionnements. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment on avance?
Comment on avance? On essaie de synthétiser et se dire, quand vous parlez de l'affaire Bettencourt, c'est justement parce que Nicolas Sarkozy avait été accusé par le juge Gentil, mis en examen, et puis que finalement ça s'est terminé par un non-lieu, et que furieux que le juge Gentil ait utilisé ses agendas de président, alors qu'il n'aurait pas dû, a voulu faire sanctionner les manœuvres du juge Gentil par la Cour criminelle de cassation, alors qu'il sait très bien qu'elle est composée de juges ou d'anciens juges, et qu'il se sert tous ses mains dans la main, qu'il n'en obtiendra rien. Et comme il espérait en obtenir quelque chose, je veux dire, Monsieur Azibert, qui appartenait à une autre partie de la Cour de casse et qui n'avait aucun rapport avec la chambre criminelle, a dit, ah ben moi je pourrais peut-être avoir des renseignements, c'est-à-dire téléphoner à l'un ou à l'autre, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas eu de renseignements, et l'autre lui a dit, mais dans la conversation de deux copains, tiens, en fait, si vous pouviez m'aider pour aller à Monaco. Bon, et Sarkozy avait dit, mais oui, pourquoi pas, puis finalement ne l'a pas fait. Et je dirais, c'est ça qui devient corruption de fonctionnaire.
Ce qui est formidable, c'est que ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Ce que je voudrais voir, c'est que ça n'a rien à voir avec l'affaire, même avec l'affaire Bettencourt, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a l'impression que n'ayant rien trouvé, mais bien à propos de cette affaire Bettencourt, et ayant quand même au passage pris les carnets de Nicolas Sarkozy, alors le parquet financier en quelque sorte se détourne et se met pendant 6 ans, ça a duré 6 ans, à se demander qui est la taupe au sein de son service. Il n'est quand même pas là pour ça, pour le coup, le parquet financier. Qui est la taupe?
La surveillance, elle a duré 15 jours sur les avocats.
On ne sait pas qui est la taupe, et de toute façon, ne désigner dans les taupes que les avocats. Et en plus, qu'ils perdent 6 ans à ça, quand même.
Six ans à ça, ça n'a pas duré 15 jours, parce qu'il y a eu des relances de l'enquête, c'est reparti, vous voyez. Et alors, celui...
Pas sur les avocats. Hein.
Le procureur adjoint du PNF, qui s'appelle M. Lorgouillou, qui était un ancien procureur de Marseille, et qui suspectait Nicolas Sarkozy d'être lié à l'affaire, Air Cocaïne, parce qu'il utilisait des avions qui avaient utilisé ces gens qui faisaient qui transportaient de la cocaïne dans leur avion. Il a essayé de regarder les fadettes de Nicolas Sarkozy. Donc, vous voyez, c'est une espèce de complot contre lui. Il faut absolument trouver les moyens
l'acharnement. Ce qui choque, c'est la recherche obsessionnelle, si vous voulez, d'une culpabilité quelconque de Nicolas Sarkozy.
Qu'il n'arrive pas à prouver.
Ce que Gérard Kerbou appelle l'amicale socialo-socialiste, si vous voulez. Voilà.
Oui, encore que.
Alors, c'est exagéré.
Encore qu'ils font ça systématiquement. Je crois que le mal est plus profond. Il désingue tous les politiques. C'est pas du tout. C'est uniquement, oui, bien sûr, Sarkozy. Mais il désingue tout ce qu'ils peuvent désinguer. Et c'est ça qui est embêtant. Parce que, bon, par exemple, on reprend l'affaire Mélenchon. Bon, c'est vrai qu'il avait un peu parlé sous le nez. Des flics qui faisaient une perquisition. Ça ne valait pas là aussi qu'on les menace tous pendant longtemps de représailles, de jugements contre, etc. C'était aussi... Donc il y a une volonté, je trouve, beaucoup plus importante que ça, de se faire les politiques.
Alors, on va revenir aussi dans un petit instant, si vous le voulez bien, sur le cas Raoult, puisque hier, on l'a entendu longuement devant la commission d'enquête. A-t-il fait un show ce qu'en est-il sorti avec brio? Vous allez nous dire tout ça dans un petit instant. Les grandes voix jusqu'à 19h sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, Catherine et Michel Cotta et Charles Villeneuve, jusqu'à 19h.
Oh là là, c'était une audition attendue. Évidemment, la commission d'enquête sur le Covid-19 de l'Assemblée a auditionné hier Didier Raoult longuement, le défenseur évidemment du traitement controversé à base d'hydroxychloroquine. Vous l'avez écouté, mesdames, messieurs, Charles Villeneuve, parce que vous avez été sans doute particulièrement attentif, vous avez beaucoup, vous êtes beaucoup penché sur l'hydroxychloroquine. Le professeur Raoult,
moi j'ai été soigné à l'azithromycine, c'est vrai. Oui. Si vous voulez, l'antibiotique qui va avec la chloroquine, mais j'ai pas été, puisque la chloroquine n'est administrée dans le protocole Raoult que les deux ou trois premiers jours.
Mais je sais que vous vous êtes penché, c'est parce que on en a souvent parlé, et Michel également. Il a souvent fait le show, Didier Raoult. Là, il a été comment? Vous l'avez trouvé comment? Pas mal de digressions. Est-ce que c'est...
Écoutez, moi, je l'ai trouvé très bon. Voilà, je dis les choses comme elles sont parce que je l'ai trouvé très bon du début à la fin. Alors, avec tous ses défauts, mais toutes ses qualités. Alors, tous les défauts, on voit bien maintenant les mensonges ou les approximations sur les enquêtes qu'il a menées, pas menées. Bon, on voit bien. N'empêche qu'il a emballé. Il a emballé la commission d'enquête.
Alors, il a souvent digressé, vous avez remarqué, Michel.
Oui, mais justement,
il est souvent parti, il les a emmenés, en fait.
Parce qu'il répond d'abord aux questions qu'il se pose lui-même. Voilà, je dirais, il maîtrise tellement bien son sujet que les autres sont presque comme des petits garçons devant lui. Ils essaient bien de l'attaquer et tout ça. Mais on sent bien que derrière cet homme qui a ce look toujours... évidemment, moi j'ai toujours envie de lui couper la barbe de druide, ça fait un peu désordre.
Mais enfin, c'est pas un physique qui s'est fait,
alors qu'avant il n'était pas comme ça quand il était plus jeune, donc ça doit placer,
faut
sûrement...
Il a toujours été à contre-courant, même adolescent.
Oui, mais tu sens vraiment qu'il y a quand même une personnalité forte, et moi ce que je l'ai vu ce matin chez Bourdin, vous voyez, et Bourdin qui essayait de l'attaquer, on ne vous aime pas et tout ça, mais comment tout d'un coup il a failli se lever et dire, écoutez, moi j'ai pas besoin de cette interview. Et alors du coup Bourdin qui a voulu faire ami avec lui, alors à un moment le Raoult te dit, mais moi, vous savez ce que me disent les gens, je m'en fous. D'ailleurs, il y a une seule chose qui compte pour moi, c'est l'estime que j'ai de moi-même et l'estime qu'ont mes amis, mes proches pour moi. Et Bourdin qui dit, ah, mais c'est comme moi, c'est comme moi. Et Bourdin qui nous parle de lui. Après, il dit, mais vous ferez de la politique? Et Raoult dit, mais jamais, je ferai de la politique. Eh bien, voyez, encore un point commun avec moi. Mais on s'en fout de ce que veut Bourdin et tout ça. Je trouvais que c'était une interview.
Catherine a eu à régler son compte.
Non, mais je trouvais ça.
Je trouve quand même qu'il a...
Il a alterné entre attaques.
Oui, non, mais il a posé la question pour moi la plus importante de cette affaire, c'est la question de la politique de la santé, qui depuis 95, de toute façon, on le sait, a l'obsession, là encore, une obsession de réduire les coûts et de contrôler la progression des dépenses de l'assurance maladie. C'est pour moi le plus intéressant dans son propos, parce que ça rejoint la longue plainte des médecins que nous avons entendus pendant ces crises sanitaires et des soignants. Et c'est vrai que ça pose un vrai problème, puisque on a mis aux manettes finalement les comptables au détriment des médecins. Vrai que laisser la bride sur le cou aux médecins peut aussi poser des problèmes. Mais il n'empêche qu'il y a un équilibre à trouver qui n'a pas encore été trouvé.
Et puis surtout, Michel, il a insisté sur la divergence et même l'affrontement de certains services entre eux, de cette volonté de dire non, l'IRSEM, c'est moi la première. Et alors, moi, la question que je me suis posée et que je me pose déjà depuis longtemps à son sujet, c'est pourquoi est-ce que cette affaire a pris un tour politique? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, des gens qui n'étaient pas médecins, Douste Blasi, c'est autre chose, il a toujours soutenu Didier Raoult. Mais par exemple, pourquoi est-ce que d'un seul coup, Bruno Retailleau ou d'autres ont dit... Ah, c'est une affaire, on veut interdire la chloroquine, c'est un complot.
Ou le contraire,
pourquoi est-ce qu'il y avait les pros,
Michel,
comme les...
Par exemple, même des journalistes qui ont pris position contre Raoult. Alors qu'ils n'ont aucune compétence pour le faire.
Justement, je pensais que dans la politique, c'est devenu, on sentait que, en gros,
on est pro
vers la droite, on était pro. parce que c'était le petit contre les grands ou le gilet jaune contre les élites, alors que, comme il l'a dit lui-même souvent, lui, il ne se prend pas du tout pour un gilet jaune, il dit l'élite, c'est moi aussi, il ne faut pas exagérer. Donc, on a transformé ce combat
il est le Mozart
entre un petit combat
de la recherche.
David contre le Goliath étatique, le petit professeur sans rien, bon, alors que c'est complètement faux, c'est pas du tout sa nature, et que d'ailleurs lui-même a dit, moi j'ai eu la plus grosse subvention qu'on m'ait jamais donnée à mon organisme, moi je fais ce que je veux, moi j'ai toujours eu un contact avec le président
c'est
de la République.
Est-ce que cette façon
de politiser la chloroquine m'a paru ahurissante pendant tout ce débat.
Mais d'ailleurs, il est allé aussi là-dessus, en quelque sorte, et même sur les proportions que ça avait pris. Il a dit, ça m'a dépassé, d'une certaine manière, cette controverse aussi.
Oui.
Et il a dit, je suis pas pote avec Bolsonaro, pardonnez-moi.
Ni avec Trump.
Ouais.
Non, mais il a dit quelque chose, moi, qui m'a frappé. Il dit, dans le fond, quand l'épidémie a commencé, que disait-on en français ? Écoutez, si vous avez des symptômes, prenez du Doliprane et restez chez vous, et puis après, vous viendrez à l'hôpital si vous allez mal. Tandis qu'il dit non. Dès qu'on avait des symptômes, il fallait tout de suite agir et prendre
Il a d'ailleurs
dit que peut-être là, il y a une vraie faute et que des gens sont tombés très malades alors qu'on aurait dû les soigner plus tôt. Mais ça, c'est une vraie question.
Expérimenté quand on appelle le 15, à la voix, on vous dit « Mais vous avez quel âge ?» Et à partir de là, je vous dis, ben, restez chez vous.
Voilà.
Hein, et si et ça s'aggrave, prenez du paracétamol.
Et attendez
d'étouffer.
Et lui, ce qu'il dit,
Et attendez. Voilà.
Et lui, ce qu'il dit,
c'est que ceci étant, quand même, si on veut être de bonne foi, toutes les études qui ont été faites n'ont pas montré que
l'efficacité du médicament
était très efficace, ni à quel moment il l'était, ni à quelle dose.
Et même les risques cardiaques,
Donc,
il ne faut pas le prendre très longtemps. Ça, c'est ce qu'a montré justement ces études. Il faut le prendre seulement les deux premiers jours dans le protocole avec l'antibiotique, l'azithromycine. Mais cela étant, il ne faut surtout pas prolonger. Enfin, on a tiré des tas de conclusions. Finalement, on ne sait rien. D'ailleurs, on sait qu'on ne sait rien.
Il le dit lui-même. Même sur comment faire des analyses sur un virus qu'on ne connaît pas. Il dit ceux qui font des modèles mathématiques, désignant d'ailleurs un des membres de la commission, sont des fous. C'est vrai que c'est difficile dans une maladie où maintenant on vous dit mais la seule chose qui marche, c'est les anticoagulants.
Ce qu'il dit aussi, c'est que des personnes qui ont été infectées, qui ne sont guéris ne sont finalement jamais guéris au bout de 4 mois avec des complications pulmonaires, des résurgences, et qu'on ne sait pas les soigner. Et ce qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est quel type de personne, avec quelle pathologie au départ ou sans pathologie, pourquoi certaines personnes ont cette affection longue durée et d'autres pas. Eh bien, ça, on ne le sait toujours pas.
On ne sait toujours pas s'il y a une immunité non plus. Donc, nous ne savons pas si nous sommes, Charles et moi, immunisés. Puisqu'on dit qu'il n'y a pas de passeport d'immunité, ce qui est quand même extraordinaire.
Moi, je me sens immunisé.
Nous, on voit bien que Charles est complètement immunisé. Je peux vous le dire. Mais si, Michel, bien sûr. Merci à toutes les trois. Merci les grandes voix de ce jeudi. À demain.